Alain Baraton,
toujours présent.
Fidèle au poste.
Et on est bien content. Votre main verte. Ce matin, vous nous proposez trois livres à offrir pour les fêtes.
Et oui, le premier est un album de dessin et a pour titre Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir. Alors, Olivier Talec a représenté avec humour et avec talent les arbres étranges comme le palmier à moustache ou le malpolinier. Le malpolinier, Eric, c'est un arbre qui ne peut s'empêcher de vous tirer la langue quand vous passez à côté.
Alors, tout ça, dire.
Vous vous en doutez, c'est un livre imaginaire, ce sont des plantes imaginaires, c'est un livre humoristique, c'est pour les enfants à partir de 5 ans, 56 pages, grand format, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est plein de tendresse, c'est plein de poésie, c'est plein de malice, et c'est publié chez Actes Sud Junior.
Alors le second livre que vous nous suggérez, Alain, est signé Jean-Loup Chifflet.
Eh oui, j'aime beaucoup Jean-Loup Chifflet, je ne suis pas le seul dans cette maison.
Non, et dans ce studio, oui, je l'embrasse aussi.
Mais bien sûr, il nous a écrit le bouquin des mots d'esprit, plus de 1000 pages de citations amusante, subtile, absurde ou poétique. Tous les sujets sont abordés. La vie, la mort, l'amour, le sexe, la religion et bien sûr la nature et le jardin. Exemple avec Raymond Devos. Quand un chêne sent le sapin, il sait que sa dernière heure est arrivée. C'est quand même merveilleux. Ou encore, ma préférée, un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
Allez, dernière idée, pour Noël toujours, les raisins de Pierre-Joseph Redouté.
Oui, il est demandé au 19e siècle à Redouté de représenter les cépages français cultivés dans le jardin du Luxembourg à Paris. Redouté, alors, on le sait, il est célèbre pour ses peintures des roses du château de la Malmaison, va ainsi composer 83 aquarelles sur vélin, des aquarelles jusqu'alors conservées par l'Académie d'Agriculture de France. Elles sont, j'allais dire, enfin, reproduites dans un magnifique ouvrage qui se conclut par un éclairage scientifique sur l'avenir de la vigne au 21e siècle. Le livre est très très beau, les aquarelles sublimes, les textes sont de Jean-Michel Boursicot, qui est vraiment le spécialiste incontesté de la vigne. C'est un ouvrage vraiment qui mérite d'être offert. 42 €, je donne le prix.
Oui,
mais quand on voit l'ouvrage, honnêtement, ça les vaut. C'est publié aux éditions Paulsen. Et j'en profite, si vous le permettez, pour saluer mes confrères et amis de l'Académie d'Agriculture de France.
Eh bien, à présent, vos conseils, Alain Baraton, aux auditrices et auditeurs d'Inter, avec Stéphanie pour commencer. Mi-juillet, elle a acheté 2 pots de canneberge et 2 de groseille à maquereau. Mi-août, un mois après, les feuilles des groseilliers ont jauni. Je les ai donc plantées avec du compost, dit-elle. Je les ai paillées, je les ai arrosées et je vais même mettre un voile d'hivernage. Or, aujourd'hui, les canneberges semblent mortes. Pourquoi ?
Vous avez dû emprunter l'accent canadien québécois, parce que les canneberges sont originaires du Canada. On les appelle également les cranberries. Vous savez, les fruits rouges. Non, quand je dis que ça m'amuse, dans l'énoncé de la question, vous dites que l'on va mettre un voile d'hivernage sur les végétaux, qui sont des végétaux qui résistent, le groseillier à maquereau,
au Canada, ils sont habitués.
Ou le canneberge, aux températures les plus basses. Quand on installe des végétaux dans un jardin, il faut tenir compte de plusieurs paramètres, dont la qualité du sol. Et il s'avère que le canneberge, a besoin d'un sol extrêmement acide, contrairement au groseillier, qui lui supporte un sol riche, mais il n'aime pas le calcaire, c'est tout ce que il redoute. Donc, sol très acide. Les deux plantes ne sont pas faites pour vivre ensemble, côte à côte. Donc, de temps en temps, on trouve dans le commerce aujourd'hui des petits bâtonnets qu'on enfonce, qui vous permettent d'avoir rapidement le pH, le potentiel hydrogène d'un sol, et savoir ce que l'on peut mettre ou pas dedans. Donc certaines plantes, ensemble, ne peuvent pas cohabiter.
Claudine a un ginkgo en pot depuis 15 ans dans la Drôme provençale. Est-ce qu'il peut se replanter sans risque dans les Hautes-Alpes, Provence, Côte d'Azur? Et au passage, quelle est la meilleure période, automne ou printemps?
La meilleure période, automne, incontestablement. Peut-il être replanté sans risque? Toute plantation, toute transplantation est un risque pour la plante. C'est un petit peu comme une transplantation cardiaque.
C'est exactement la même chose.
Eh bien oui, il y a un risque. Vous avez des personnes de constitution solide qui ne résisteront pas, et puis des gens parfois un peu malades qui résistent.
Donc quelles conditions pour essayer d'y arriver quand même alors ?
Alors donc ce qu'il faut faire, c'est 1, éviter de mettre les racines en contact avec l'air, 2, ne pas attendre entre le moment où la plante est dépotée et replantée, 3, arroser copieusement après, et se rappeler que essayer de reproduire approximativement la condition dans laquelle la plante vivait avant d'être transplantée, et en particulier son exposition au soleil. La plante a produit des feuilles, du bois, en fonction de son orientation pour pratiquer au mieux la photosynthèse. Essayez de reproduire la même orientation quand vous replantez.
Mais là, il va y avoir un temps de transport, donc c'est dangereux en fait.
Oui, oui, mais si les tempos, il y aura pas de souci, on peut attendre. Et puis je vous rappelle qu'en automne et en hiver et en ce moment surtout, la plante est en dormance, donc elles peuvent attendre. Mais attention également, j'en profite, vous achetez les végétaux, on vous les livre maintenant à racines nues, vous les planterez simplement début janvier, vous n'avez pas le temps, protéger les racines du froid, important. C'est quand même ballot d'acheter les plantes, de les payer cher et de les voir mourir parce qu'on n'a pas pensé mettre soit un tapis de feuilles, soit une couverture sur les racines.
Marie doit refaire la façade de sa maison où elle a un très vieux hortensia au pied. Le maçon me dit de les couper car ils repartiront. Moi, je me disais que bâcher mes hortensias serait peut-être la meilleure solution. Quel est votre avis, docteur Baraton?
Elle n'a peut-être pas tort. Une bonne vieille bâche aux hortensias. Une fois que le travail est terminé, on retire la bâche, on donne quelques coups de sécateur pour remettre un petit peu tout ça en état. On en profite pour rajeunir l'hortensia. Je vous rappelle que l'hortensia, il suffit tous les ans de supprimer les branches les plus anciennes que l'on distingue au bois sombre et très dur. Et les hortensias repartiront. Mais couper des hortensias à la base...
Ça fait pas forcément du bien.
Non, mais non, c'est un traumatisme pour la plante. Si les hortensias étaient sublimes avant les travaux sur le mur, autant qu'il le reste après, le bâchage suffira largement.
On termine avec votre conseil du jour.
Non, c'était simplement rappeler peut-être les trois titres des livres, à savoir le livre des arbres et plantes, publié chez Actes Sud, notre ami Jean-Loup Chifflet, qui a produit également son merveilleux livre, et puis l'Académie d'agriculture.
Merci Alain Baraton, on vous retrouve demain.
Ah bah oui.
Avec plaisir.
Oui.
Il est 8h-10.